Je me suis demandé si je devais venir, une fois de plus. Parce qu'en fait, tout ce qu'a dit Alain et dans les prières, c'était tout ce qu'il y a dans chose promise, chose due, le psaume 37. On va aller dans le psaume 37. Et vraiment, voilà, tout y est. Hein. Alain a tout dit. Hein. Dans la présentation, tout y est. Il suffirait juste d'aller, si on pourrait revenir en arrière, quand il parle, mettre le psaume et puis oui, venir mettre son texte. Donc j'ai pris le psaume 37 parce que j'étais personnellement dans des périodes d'épreuve. Et donc c'est un psaume qui nous aide, qui nous réconforte dans des moments difficiles. Mais comme il a encore été dit ce matin, on peut vraiment compter sur la présence, la fidélité de notre Dieu dans les situations très difficiles ou difficiles. Il y a différentes épreuves dans nos vies. Il y a des choses des fois qui touchent même nos corps, nos familles, nous personnellement. Mais on peut compter sur la grâce de Dieu. Et tout ça pourquoi ? Parce que nous pouvons maintenant nous approcher de son trône de grâce pour pouvoir venir apporter nos souffrances, apporter nos supplications. Et c'est une chose merveilleuse qu'on a un accès chacun, chacune, personnellement, à son trône. Chose qui n'était pas spécialement dans l'Ancien Testament. Dieu entend les cris du malheureux. Mais souvent, ils passaient par le sacrificateur, le souverain sacrificateur, ils allaient par lui. Et là aussi, nous avons, nous, devant le trône de Dieu, notre grand souverain sacrificateur, Jésus-Christ, qui intercède pour nous. Et il nous a donné le Saint-Esprit aussi pour que nous puissions être réconfortés et consolés. Et c'est très important. Donc le psaume 37, c'est plus un enseignement. Donc je vais le prendre un peu plus comme un enseignement. Mais c'est plus un enseignement. Ça a été écrit par David. Et ça a été écrit, on le sait, au verset 25. Il dit quoi ? Il dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours Dieu, il est compatissant, il prête et sa postérité est bénie. » David a écrit ce psaume dans sa vieillesse, je ne vais pas dire à la fin de sa vie, je ne sais pas, mais dans sa vieillesse. Et donc, il a vu des choses, il a vécu beaucoup de choses, David, beaucoup de persécutions, et donc il sait également de quoi il parle, mais il sait surtout vers qui il s'est tourné, et donc vers l'Éternel. L'Éternel, le Dieu de l'Éternel, des fois c'est éternel, des fois Dieu, nous on pourra, moi là je vais peut-être dire des fois Dieu, alors que c'est écrit éternel. Mais l'Éternel, c'est vraiment le Dieu, c'est le Dieu créateur, c'est lui, c'est toute la personne même de Dieu, l'Éternel. Et surtout, Dieu dans sa compassion et son amour. Alors, ce psaume parle du méchant et du juste. Alors, je vais juste vous donner une définition de ce que c'est qu'un méchant selon la Bible. Parce qu'on pourrait se dire, est-ce que moi je suis méchant ? On pourrait, des fois, on dit à nos enfants, t'es méchant, hein ? Mais bibliquement parlant, dans la Bible, ce mot est des fois traduit par impie aussi. Dans la Bible, un impie est une personne qui vit sans Dieu, qui rejette sa loi et qui agit avec mépris envers le bien et la piété. Il s'oppose activement au commandement divin par son mode de vie ou ses actes. Dans l'hébreu, le mot désigne principalement celui qui est coupable face à la justice de Dieu, souvent trompeur ou injuste, et qui fait le malheur des autres. En grec, le terme qualifie celui qui manque totalement de respect et de révérence envers Dieu, vivant comme si Dieu n'existait pas, ou n'avait aucun droit sur sa vie. Caractéristique de l'impie, il rejette l'autorité et les conseils de Dieu. Il rejette l'autorité et les conseils de Dieu. Il n'écoute pas. Forcément, puisque des fois, pour les méchants, Dieu n'existe pas, c'est dans un psaume. Il pratique l'injustice, des fois même certainement avec plaisir, et opprime souvent les plus faibles. Ses paroles et ses actes témoignent d'un cœur rebelle. La Bible enseigne souvent que son chemin mène à la ruine par opposition au chemin du juste qui cherche la paix avec Dieu. Voilà donc un peu la définition du méchant. Et nous étions tous méchants. Nous étions tous sans Dieu. Ça nous dit Éphésiens. Et par la grâce de Dieu, nous sommes maintenant bien-aimés. Est-ce que vous savez que vous êtes bien-aimés? David, l'homme de David, il est dit au début. Et si on va voir David, il est appelé des fois le bien-aimé. Mais dans le terme même de David, il y a la filiation de famille. Nous sommes, nous, maintenant, bien-aimés de Dieu parce que nous avons été mis dans la famille de Dieu par Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'endroits dans la Bible où il est question de cette filiation. Et nous ne sommes plus regardés pareil, nous ne sommes plus regardés comme des méchants, mais parfois on peut être regardé encore comme des pécheurs. Il y a une différence. Le pécheur, c'est celui qui a forcément pas fait ce qui était juste. Il doit entendre et puis il doit se repentir. Et rechanger sa voix, revenir à l'Éternel et changer sa voix. Donc nous avons ce lien de parenté, et c'est très important, on l'a encore entendu beaucoup ce matin, c'est que nous ne sommes plus éloignés de Dieu, mais nous sommes aimés de Dieu. Donc quand nous passons dans des difficultés, il faut garder ça en tête, en mémoire. Nous sommes aimés de Dieu, il connaît toutes choses. Sauf que nous devons des fois passer par des difficultés, parce que ça va nous permettre, comme le dit ce psaume, de pouvoir être affermis dans notre foi, affermis. Nous apprendre à plus se concentrer sur Dieu, nous apprendre à plus venir à lui dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, plutôt que nous appuyer sur nos propres forces. Alors le psaume, il est structuré de manière alphabétique. En hébreu, il y a 22 lettres. Et donc, ça commence toujours par exemple, en hébreu, c'est Aleph, la première. Hein. J'ai entendu ce matin l'alpha et l'oméga. C'est Aleph, Tav. Et donc, c'est des strophes de 4 versets à chaque fois. Ça permet de mieux structurer le psaume. Et c'est pour les jeunes, et même pour nous, bon, peut-être plus pour nous, mais pour les jeunes et les adultes, on va dire, ça permettait de retenir plus facilement. Mais ce qui est intéressant aussi, mais je ne vais pas rentrer dans ça, hein, sauf à un endroit. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la lettre a un rapport avec le texte. Voilà. Alors, psaume, on pourrait donc dire effectivement, je l'ai dit, bien-aimé. Dans le texte, ce qu'on appelle des hébreux, massorétiques, qu'on a des fois dans nos bibles, c'est marqué Louis II selon le texte massorétique, c'est des fois traduit frère. Il n'y a pas David marqué. Il s'adresse directement aux frères, bien-aimés de Dieu, frères et sœurs. Et qu'est-ce qui est dit? Ne t'irrite pas contre le méchant. Ne t'irrite pas. Vous savez ce que c'est quand on est irrité, quand on a une irritation? Ça venait tout à l'heure, je n'ai même pas pensé cette semaine à ça. Bien que je le sens un peu dans mon genou, c'est autre chose. Une chaleur. Quand la peau est irritée, ça chauffe. Eh bien, c'est ça. Il nous est demandé de ne pas s'enflammer intérieurement contre les méchants. Ne pas chercher à rivaliser avec celui, ou celle d'ailleurs, hein. Il y a aussi des méchantes femmes, celui ou celle qui agit avec méchanceté. Rivaliser, c'est jalouser de vouloir faire pareil. Et nous est demandé de ne pas suivre la voie du méchant, pousser à faire les mêmes œuvres. Il nous est demandé, par contre, d'avoir du zèle, c'est le même mot, être bouillonnant, mais pour le bien. Pourquoi? Parce que les méchants sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon. Les méchants vont aller à la ruine. Donc là, c'est ne pas faire. Et ensuite, dans le texte, du verset 3 jusqu'au verset 9, mais on va dire 11 pour finir, il y a, j'ai pas compté, mais il me semble que c'est 7 impératifs. Ne pas faire, ne te mets pas en colère, ne t'irrite pas contre le méchant. Mais par contre, et c'est un impératif, c'est-à-dire fais-le. Fais-le. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture et fais de l'Éternel tes délices et il te donnera les attentes de ton cœur. Au lieu de se nourrir nos pensées, parce que c'est ce qui se passe tout de suite, hein, c'est dans nos pensées que ça travaille, des pensées peut-être de vengeance, des pensées Oui, de vouloir suivre le chemin du méchant, vouloir faire pareil, il faut tout de suite venir à l'Éternel, se tourner vers lui. Ce n'est-ce pas la prière ? C'est la prière. Dès qu'il y a quelque chose du méchant, quelque chose qui vient contre nous, tournons-nous tout de suite dans la prière. Confions-nous tout de suite à l'Éternel. Aie confiance en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Aie confiance en l'Éternel et fais le bien. Aie le pays pour demeure et paix en sûreté. Dirige, tu es te laisser diriger par la paix, nourri par la paix que Dieu va te donner. Il est dit que nous pouvons aller à la demeure de l'Éternel. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Où elle est actuellement la demeure de l'Éternel ? Alors notre frère nous a dit, effectivement, Dieu est au ciel. Enfin, il est plus haut que le ciel même. Donc nous allons à lui par la prière. Mais où est le temple ? Où pouvons-nous aller prier ? C'est bien intérieurement, c'est notre cœur. Donc il faut veiller sur notre cœur, se retourner intérieurement. Et non pas, comme il y a encore été dit tout à l'heure, regarder aux choses, mais plutôt revenir intérieurement, calmer nos pensées dans la confiance de l'Éternel intérieurement. Psaume 36, 9, je vais le prendre. Si je le trouve. Psaume 36, 9. Pourquoi ? Car auprès de toi est la source de la vie, ce qui va raviver, au lieu de se laisser abattre par les paroles ou même les actes des méchants. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Il est dit dans Ésaïe 26, 3, dans celui qui est ferme dans ses sentiments, donc dans ses pensées, et ferme, disposé vers le Seigneur, tu assures, donc l'Éternel, Dieu, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. On va être en paix intérieure parce qu'on va se confier en lui, en ses promesses. Dieu a promis. Tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je réfléchissais un peu sur la chaise. Chose promise, chose due. Et Dieu n'est pas obligé. Il le fait par amour. Et il nous a promis. Dans ce psaume, il promet, on va le voir, je pense, il nous promet d'être toujours avec nous. Jésus l'a dit, je serai tous les jours avec toi. Tous les jours. Petite parenthèse, je pense que c'est là ce fameux shalom shalom. Hein, il est dit, tu assures la paix, la paix. Bon, ça c'est pour le chosen, petite parenthèse. La dernière fois, on se pose la question avec quelqu'un. Ensuite, il est dit au verset 5. Je tentais à aller expliquer les trucs hébreux, mais je veux... Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Là, il nous est dit de tourner nos pas, de remettre sa vie à l'Éternel, mettre en lui notre confiance et lui, il va faire. Lui, il va faire, se confie en toi. C'est ce qui est rappelé d'ailleurs. Il y a un grand lien entre le psaume 36 et 37. Il faut lire les deux ensemble. Car auprès de toi, non, ça je l'ai déjà lu, étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Bien sûr, Dieu va nous donner, venir à notre secours. Mais par contre, il ne peut pas venir à notre secours si notre vie n'est pas réglée. Comme le disait un frère tout à l'heure. Si notre vie n'est pas réglée, si on n'a pas été dans la justice et la droiture, il ne peut pas participer à ce qui n'est pas juste ni droit. Il faut d'abord régler les choses et ensuite, il va pouvoir bénir. Si vous préférez, plus simplement, il ne peut pas bénir le mal, il ne peut pas bénir l'iniquité. Ce n'est pas possible. Sinon, il est participant de ce que lui n'est pas, de la bonté. Et là, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. En plein midi, ça va briller. Il nous est demandé de, au verset 7, une fois qu'on a fait tout ça, parce qu'il y a quand même un cheminement là, de garder le silence. Alors je vais prendre tout de suite la version, enfin la version plus littérale, les mots qui expriment les mots. Reste en silence, reste calme, tranquillisé, parce que il est l'Éternel. C'est pas tout de dire Seigneur, je te remets ça, et en fait d'être agité, et en plus de ça, le gros problème, c'est de vouloir agir par nous-mêmes. Non, lui, il fera. Il fait certainement mieux que nous. C'est même pas certainement, il fait mieux que nous. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, nous dit Lamentation. Attendre son intervention. Et là, il est une fois de plus rappelé, donc c'est vraiment ne pas faire ça. Ne t'irrite pas, ne t'enflamme pas contre celui qui réussit, qui arrive à l'achèvement de ce qu'il projetait de faire. Ses mauvais desseins, il est dit. Ses ruses, ses intrigues, ses complots. Vous voyez jusqu'où ça peut aller ? On peut avoir des ruses et des complots contre nous. Et il nous est dit, ne t'enflamme pas. Remets tout alors. Remets-moi tout. C'est ce qu'il nous est demandé. Remets-moi tout. Garder le silence, je vous avais dit qu'il y avait 7 impératifs. Je vais peut-être les rappeler après. Donc, garder le silence, c'est un impératif. Espérer en lui, c'est un impératif. Espère en lui. Espère en lui. Laisse la colère, verset 8. Abandonne la fureur. C'est tous des impératifs. Laisse aller, laisse partir la colère. Le sens, c'est relâcher. Relâcher la tension. Des fois, on peut souffler parce que on en a marre. Mais là, c'est souffler dans le sens de « Je te remets tout, Seigneur. » Et c'est là, c'est le seul que je vais prendre, mais il y en a plein comme ça. Ce texte, cette strophe commence par la lettre « Hé, hé, laisse, relâche tout. » Ça va te tranquilliser. Relâche tout. Lâcher pour aller vers l'Éternel. Abandonner la fureur. Abandonner tout ce qui t'enflamme. Rejette-le. Tout ce qui te rend rouge de colère. Vous savez qu'on peut devenir rouge de colère, hein ? À un endroit, il dit, je ne comprends pas trop ce verset, mais mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Donc, effectivement, ça serait plus de... On peut être irrité intérieurement. Mais dès que ça vient... Ne péchez pas. Ne passe pas à la fureur. Le mot de la fureur, ici, était très intéressant parce que, en fait, abandonner la fureur, c'est ce que, abandonner ce qui nous enflamme, ce qui nous rend rouge de colère. Dans le mot, il y a la notion de saliver. Ça vous est déjà arrivé, ça ? À force de se mettre en colère, on commence à baver. Ça m'est arrivé une fois. J'ai un collègue, je ne vous dis pas le dire, mais. Je connais quelqu'un. Ben souvent, quand il s'énerve, je le vois faire ça. Ouais. Mais ça va plus loin que ça. Hein. Parce qu'il suffira juste qu'on puisse, ce qu'on a bavé ou qu'on a essuyé, qu'on puisse aller le jeter. Parce que dans ce texte, il y a la notion de vouloir se venger, aboutir à un mal faire. Il y a quelque chose intérieur qui vient, une chaleur, quelque chose qui fermente comme du venin. Et qu'ensuite, il est déversé. Et voilà ce que fera la fureur. Non seulement, tu te mets en colère, mais en plus de ça, le stade suivant, c'est partir dans la fureur et commencer à cracher des choses mauvaises, du venin. Est-ce que nous faisons ça, des fois ? On a souvent parlé depuis quelques temps, je ne voulais pas rentrer dans tout ça, je veux rentrer vraiment que dans le texte. La médisance, on fait partie. Le méchant va médire. Il va parler des choses mal, des fausses mêmes choses des fois, pour aboutir à ce qu'il veut, à ses desseins. Donc il nous est demandé de pratiquer le bien, c'est ce qui nous était dit au verset 3, là il nous rappelle de pratiquer le bien. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est un verset que j'ai eu pour moi personnellement au tout début. Il m'est resté gravé. La colère de l'homme n'accomplit pas ce que la justice de Dieu. Et aussi il est dit que faute de bois, le feu s'éteint. À force de toujours penser et penser et penser et alimenter, forcément ça commence à brûler. Donc il faut éteindre. Alors, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. C'est un rappel du verset 3. Car les méchants seront retranchés. Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Posséder le pays, c'est quelque chose qui est très important dans le psaume 37. Il y a vraiment l'idée qu'on va aboutir à la possession du pays. Alors ça a une portée, bon j'ai un peu trop vite là, mais ça a une portée présente pour nous parce que nous sommes déjà en lui, en Jésus-Christ. Nous sommes transportés dans le royaume de son amour, du bien-aimé, ça c'est dans Colossiens. Mais ça avait une portée surtout ce qu'on appelle eschatologique à la fin des temps, c'est que nous serons définitivement dans ce pays. Alors ça prend des fois du temps. On crie à l'Éternel et puis on ne voit pas les choses venir, mais ça peut prendre du temps. Ce qu'il faut, c'est rester dans la foi. Ce qu'il faut, c'est espérer en lui, c'est ce qui est dit au verset 9, être dans l'attente de la promesse que Dieu nous a faite. Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, nous est dit au verset 10, encore un peu de temps, le méchant ne sera plus. La mauvaise chose ne sera plus. Les choses qui devraient nous pousser à l'irritation ne seront plus. Tu regarderas le lieu où il était et ça aura disparu. Les misérables, verset 11, possèdent. Alors, je n'ai pas eu le temps d'aller voir plus loin, mais là, c'est au présent. Et c'est ce que j'ai expliqué, en fait, j'ai expliqué un peu ça, c'est qu'il y a du déjà et pas encore, qu'on dit, c'est qu'il y a déjà, on peut déjà être dans la paix, mais tout n'est pas réglé, si on peut dire, avec des fois le méchant. Normalement, c'est les misérables posséderont le pays. Là, d'après plusieurs textes, c'est au futur. Et ils jouiront abondamment de la paix. Mais peut-être aussi que il est dans le futur parce que la chose est accomplie en Christ maintenant. Donc pour nous, elle est présente déjà. On peut déjà vivre une paix abondante. J'évite de dire, mais non, je ne suis pas encore. Mais je sais qu'il y a des frères et sœurs, ici, ou en tout cas dans d'autres endroits, les frères et sœurs persécutés, et bien qu'ils crient à l'Éternel, mais la persécution est toujours là. Mais ils peuvent vivre intérieurement une paix, une paix céleste, comme on dit. Les misérables, ce sont ceux qui sont doux et humbles de cœur, ceux qui reconnaissent leur manque, ceux qui vont aller vers l'Éternel. C'est intéressant, hein, parce que c'est ce que Jésus a dit dans le Matthieu 5:5, le serment sur la montagne. Heureux, bienheureux les doux et humbles de cœur. Et ils feront leur délice d'une paix abondante, même dans des situations difficiles. Mais il est bon hein, de crier à l'Éternel. Mardi passé, on en a parlé. Il faut venir à l'Éternel. D'ailleurs, on l'a entendu ce matin aussi. Il faut venir à l'Éternel pour apporter nos fardeaux, nos soucis. Il est bon de les exprimer. Dieu les écoute. Ça fait déjà une première partie, jusqu'au verset 11. Nous avons là la première partie. Tout le reste découlera de ça, de ce qu'on vient de dire. Faire ce qui est juste devient... Faire ce qui est juste. Donc il nous a demandé de faire ce qui est juste. Et puis, ça devient l'affaire de l'Éternel. Ce n'est plus nous. Ça devient son affaire à lui. Et c'est ce qui est exprimé par la suite. verset 12, le méchant forme des projets contre le juste. Et c'est la première fois qu'on a ici le mot juste dans le psaume. La première fois qu'il est expliqué que faire ce qui est demandé, c'est juste. Et donc le Seigneur est avec le juste. Le méchant grince des dents contre lui. Le Seigneur de ce méchant, de lui, rit, car il voit que son jour arrive. Rire, je me suis dit, est-ce que Dieu rit des méchants? Je pense pas que c'est un rire, enfin, j'ai pas trop cherché, hein. Je pense pas que c'est un rire moqueur. Je pense à autre chose. C'est plutôt un rire de... Il ne les prend pas au sérieux. Il ne les prend pas au sérieux. Et surtout, c'est un rire de supériorité face à l'agitation. Il se voit le méchant s'agiter à vouloir faire mal. Dieu rit, il dit, mais c'est quoi ton agitation? Bien sûr, tu ne me connais pas. Il parle au méchant, là. Tu ne me connais pas. Il n'a pas la crainte de Dieu, mais Dieu est Dieu. Dieu connaît la finalité des choses. Nous, nous marchons par la foi en l'Éternel. Et le juste vivra par la foi. Faisons confiance, il y a ce mot foi dans confiance, faisons confiance en lui. Et il agira. Ne regardons pas aux choses, mais regardons, comme il a été dit, vers lui. Tournez les yeux vers lui. Car le jour du méchant arrivera. Au verset 14, on peut voir que effectivement, il y a une inversion, un retournement de situation. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Et leur glaive entre dans leur propre cœur et leur arc se brise. L'objectif ne sera pas atteint. Il y a retournement de situation. On peut voir que le méchant tire le glaive. Le glaive est un symbole aussi de paroles. Il tire des paroles mauvaises. Il veut tuer avec sa bouche. Il bande leur arc pour faire tomber. C'est vouloir la chute, hein, faire mourir. Le malheureux et l'indigent. Le malheureux, c'est la personne qui est en souffrance interne, due à une situation externe oppressive. On peut être en souffrance, c'est normal. C'est normal d'être en souffrance. Je pense que ça a été dit ce matin aussi. Mais pour autant, oui, c'était ça, quand le frère disait, on peut être dans la souffrance, mais dans la joie. Et c'est là. On peut être en souffrance, mais on peut, dans cette souffrance, passer par une joie, par une paix plutôt. L'indigent, c'est celui qui est sans ressources. Vous voyez, Dieu vient au secours de celui qui est en manque, qui a besoin, qui reconnaît son manque, qui a besoin de lui. Mieux vaut, verset 16, le peu du juste que l'abondance du beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. Il vaut mieux le peu du juste. Mais en Dieu, en Christ, nous avons tout. Nous avons le secours du Dieu suprême. Le méchant, on peut le regarder et on va dire, mais il lui arrive rien. Il prospère. Mais ce n'est que, une fois de plus, ce que l'on voit. La réalité, on ne la voit pas. Sa finalité, on la connaît. Et nous avons surtout un grand soutien de l'Éternel pour nous-mêmes, nous est dit au verset 17. On peut voir la prospérité des méchants dans leur injustice. Et le danger, c'est de vouloir faire pareil et de partir dans l'injustice. Au risque de ne plus être intègre, c'est ce qui suivra. Au risque de faillir dans notre chemin. mais nous savons que l'Éternel nous soutient et qu'il pourvoira à toute chose. L'Éternel connaît, verset 18, les jours des hommes intègres. Là, il commence à parler de l'intégrité. Et leur héritage dure à jamais. Nous sommes appelés à marcher dans l'intégrité. L'intégrité de cœur pour pouvoir l'exprimer extérieurement. Les hommes intègres ne seront pas confondus au temps du malheur. Ils sont rassasiés au jour de la famine. Ils marchent et marcheront la tête haute. Ça a été dit dans une prière ce matin. Nous pouvons marcher la tête haute devant Dieu. Verset 20, les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent en fumée. C'est un rappel du verset 2. Ils seront fauchés aussi vite que l'herbe et se flétriront comme le gazon. Les méchants, ce sont des ennemis de l'Éternel. Et c'est lui qui combat. L'Éternel combattra pour toi. Le méchant emprunte, il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel posséderont le pays et ceux qu'il maudit sont retranchés. Je voudrais juste à cet endroit-là faire un renvoi rapide au verset 26. Enfin, un renvoi, non. Allez un peu plus loin. Toujours, il est compatissant, le juste. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mangeant son pain. Toujours, il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Je veux faire un lien là avec le verset que. Voilà, car 22, car ceux que bénit l'Éternel posséderont le pays ou possèdent, et ceux qu'il maudit sont retranchés. Et ça m'était venu. Comment Dieu bénit. Une fois de plus, ça a été dit ce matin. Eh bien, Dieu bénit aussi, et surtout, je dirais, par les frères et sœurs. Nous sommes bénis, et comme nous sommes bénis, nous pouvons bénir nos frères et sœurs. Effectivement, quand tu as été béni, déjà, le fait de venir au micro pour apporter la chose, et bien même pour ton frère et ta sœur, ça permet de se réjouir ensemble et de faire remonter le moral, si je puis dire ce mot-là, de faire remonter le moral. Nous pouvons déjà nous-mêmes, chacun, chacune, aller vers nos frères et sœurs et le réconforter. Dieu réconforte, mais nous pouvons aussi, nous sommes demandés à réconforter nos frères et sœurs. Alors le but de la bénédiction, c'était ce matin. Je regardais, une fois de plus, Alain en a parlé, à peu près dans le même sens. Vous avez vu l'eau que nous avons eue ? L'eau que nous avons eue ? On pourrait tout de suite se plaindre. « Oh, ça y est, il pleut. Je suis en congé, je ne peux pas aller sortir. » Mais quelle bénédiction ! On peut des fois être pendant un long moment dans un terrain sec, desséché, jauni. Mais dès que la bénédiction, elle vient, eh bien, ça ravive plus vite que le temps qu'on a dû passer. Et on ne pense plus au passé. On pense à ce qui arrive à l'instant et on avance. Combien il n'a pas fallu peu de temps avant que l'herbe commence à devenir verte. Et vous voyez la différence avec le méchant ? Le Seigneur te bénit, et puis ça fleurit intérieurement. Ça vient vert. Tu vas te nourrir de ce pâturage. Et le méchant, lui, c'est comme une fleur et de l'herbe, et ça sèche. Est-ce que vous voyez la différence entre le méchant et le juste que nous sommes devenus en Jésus-Christ ? Quelle bénédiction, quelle promesse. Au verset 27, de nouveau, des impératifs. Détourne-toi du mal. Fais le bien. Et possède à jamais ta demeure. fais en sorte de posséder ta demeure. En fait, c'est une répétition, c'est-à-dire que, eh bien, on peut très bien à un moment donné que ça va mieux, on est sorti des soucis, mais on peut s'attendre à rentrer dans d'autres soucis. Et donc, ça nous rappelle, il y a une répétition, ça nous rappelle que un jour le Seigneur est venu à notre secours et qu'il le fera encore. C'est une promesse et c'est une persévérance. Nourris-toi de la justice, parce que l'Éternel aime la justice. Il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Ils sont toujours sous ses yeux. Il veille sur eux. Mais la postérité des méchants est retranchée. Ces fidèles, c'est ceux qui sont fidèles dans l'alliance. Le mot. Les racidim. C'est ceux qui sont fidèles dans l'alliance, qui sont inter et qui demeurent fermes. Vous savez que nous, on a fait une alliance avec Dieu. Enfin, Christ l'a fait, mais nous rentrons dans cette alliance par Christ. À un endroit, il est dit que nous avons fait alliance par le sacrifice. Mais également dans notre profession de foi au jour du baptême. On est entré également dans cette alliance. Sommes-nous intègres ? Sommes-nous fidèles ? Marchons-nous dans la justice et dans la droiture ? C'est ce que nous annonçons aussi dans le baptême. Je veux marcher avec toi tous les jours, Seigneur. Oui, mais marche avec moi dans la fidélité, dans l'intégrité, dans la justice et dans la droiture. Et comme il a été dit, ça fait partie de la sagesse. Si tu n'as pas, demande la sagesse. La sagesse, c'est la justice, l'équité, la droiture. La justice venant de Dieu, on réfléchit à ça, on prend un équilibre, l'équité et la droiture, c'est l'action. Ça fait partie de la sagesse. Nous avons besoin de beaucoup de sagesse, et surtout dans les moments difficiles. Donc demandons-la à Dieu, qui est le seul sage et qui va la procurer. Les justes, verset 29, posséderont le pays et ils demeureront à jamais. Vous voyez, il nous est demandé de persévérer. Persévérer. La bouche du juste annonce la sagesse. Et sa langue proclame la justice. Il ne rend pas le mal pour le mal, mais il bénit. Et il fait le bien en tout temps. Verset 31, la loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent point. Vous voyez, il faut se nourrir. Il faut se nourrir de ce que Dieu est, mais également de tout ce qui est accompli et tout ce qui nous est donné dans la Bible. Tout ce qui était les témoins, etc., dans la Bible. Le mot loi, là, j'aime pas trop, parce que souvent, quand on dit loi, on pense à la loi, les 10 commandements, etc. Et c'est dedans. Mais le mot, c'est Torah. C'est-à-dire, l'enseignement de son Dieu est dans son cœur. Tout ce qui nous est enseigné, c'est ça la Torah. La Torah, c'est l'enseignement global. Les lois sont dedans, les ordonnances, les préceptes. Tout ce qui nous est enseigné, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur et ça nous est demandé de mettre en pratique. Verset 3, si je reviens, confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Faire sa volonté. Le méchant épie le juste et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains. Il ne le condamne pas quand il est en jugement. Une fois de plus, nous est demandé au verset 34 de persévérer pour hériter de la bénédiction. Espère en l'Éternel, observe son chemin, garde sa voie. Deux fois, il nous est demandé de garder. De garder. Verset 28, ils sont toujours sous sa garde et nous est demandé également à nous de faire des choses, de nous-mêmes, de garder son enseignement, sa foi. Et là, il t'élèvera pour que tu possèdes le pays, tu verras les méchants retranchés. il n'est, dans verset 34, ça nous renvoie au verset 18, de garder, donc c'est d'être intègre. Psaume 119. Des fois, on médite pour la présentation, prédication, et on médite tellement que on pourrait dire plein de choses, mais ce matin, ça m'était revenu, ça, sur le mot, parce que je me souviens que j'avais étudié le psaume 119 le mardi. Tamim. En fait, heureux ceux qui sont intègres, positionnés dans la voie, dans leur voie, qui marcheront selon la Torah de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, c'est-à-dire ce qu'elle enseigne, qui le cherchent de tout leur cœur à vouloir faire ce qui est juste et droit, qui ne commettent point d'iniquité. Iniquité. Le méchant, le mal. Et qui marchent dans les voies de l'Éternel. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point, je ne serai point dans la confusion, dans la honte. Et si on est dans la honte, parce que, comme je vous ai dit, on n'est pas des méchants, on n'est plus des méchants. Mais on peut encore être des pécheurs. Eh bien, quand, comme tu dis ce matin, Dieu est plus grand que ton cœur. Mais surtout, il nous a promis aussi qu'à chaque fois que nous chutions, que nous est révélé intérieurement que nous avons péché, on peut revenir à lui, par la grâce. Et lui va nous relever, il va nous raviver. Le juste, je devrais demander à Manu celle-là, sept fois le juste tombe et il se relève. Et une fois de plus, les méchants sont précipités dans le malheur. Vous voyez, Dieu, la grâce de Dieu, il nous relève. Toujours en psaume 119. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur. En apprenant les justes jugements de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Vous voyez, Dieu regarde au cœur une fois de plus. Hein. Il va voir si la vérité de notre repentance. Et là, il ne nous condamne pas quand nous sommes en jugement. J'ai vu le méchant, verset 35, dans toute sa puissance, il s'étendait comme un arbre verdoyant, et pourtant, il a passé et voici, il n'est plus. Je cherche et je ne le trouve plus. Je disais tout à l'heure, ce psaume est concret pour nous, mais il y a une espérance de libération totale au jour du retour du Christ. Là, nous serons pleinement séparés de tout ce qui est du méchant et de la méchanceté. Observe, c'est répété, observe celui qui est intègre, du moins il est dit de observer celui qui est intègre et regarder celui qui est droit, afin de marcher dans ses pas. Car il y a une postérité pour l'homme de paix, mais les rebelles sont tous anéantis. La postérité des méchants est retranchée. Est-ce que nous sommes rebelles? Est-ce que nous sommes rebelles quand nous entendons le Seigneur qui nous parle par des frères et sœurs ou directement par la parole ou à nous directement? Est-ce que nous sommes rebelles à sa parole? Est-ce que nous endurcissons notre cœur? Je ne sais plus où, c'est Pierre ou Jacques, il est dit que, non c'est Pierre, nous avons purifié nos âmes en obéissant à la vérité. Quand le Seigneur parle et qu'il met le doigt sur quelque chose, est-ce qu'on dit non, c'est pas moi, c'est pas vrai, j'ai pas fait ça? Ou alors on dit bah oui, Seigneur, c'est vrai. Et en reconnaissant, en venant d'un cœur repentant, le Seigneur efface, purifie. Le salut des justes comme une finalité, hein, la dernière lettre en hébreu, hein, qui commence au verset 39, le Tav, Alpha, Omega, l'Aleph et le Tav. Le salut des justes vient de l'Éternel, il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Le salut des justes vient de l'Éternel, le secours. Il y a plein de chants, moi je dis ça, et puis, il y a plein de chants qui arrivent. Et leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Le psaume 34. Il les arrache au danger. Donc si je fais un résumé, il nous est demandé à nous de nous confier en lui, de pratiquer le bien, de demeurer dans sa fidélité, se nourrir de l'espérance qu'il nous donne, nos pensées les nourrir de lui, garder le silence, espérer en lui, être patient, ça ne vient pas toujours tout de suite, persévérer et persévérer toujours jusqu'au bout du chemin, jusqu'à son retour, en s'appuyant sur là ou les promesses pour rester intègre dans la voie. Et l'Éternel, il donne, il nous nourrit dans sa présence, de sa fidélité, de sa paix, de son espérance, d'une abondante paix. Il nous soutient dans nos difficultés. Il nous ravive, il efface la honte et il nous affermit. On passe par là aussi pour être affermi, j'en ai parlé. Et surtout, nous avons un avenir meilleur qui nous attend. Nous pouvons compter sur lui aujourd'hui, dans les difficultés. Et il y a un temps à venir où nous n'aurons plus de difficultés. Un avenir meilleur et un temps de réjouissance éternelle. Alors nous appuyons-nous sur le Seigneur et sur l'Éternel. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, qui nous réconforte. Merci pour les frères et sœurs qui nous réconfortent. Merci parce que tout vient de toi, Seigneur, et nous commençons ou nous continuons à te connaître de mieux en mieux dans ces épreuves. Et c'est ce que tu veux, Seigneur, qu'on se rapproche de toi pour être même plus qu'avec toi. Vivre de toi, Seigneur. Merci parce que ça nous permet aussi de vivre dans la foi, dans ces temps, dans les difficultés, mais également dans ces temps qui vont arriver, les temps encore plus difficiles, parce que la méchanceté va s'accroître. Et Seigneur, garde nos cœurs, Seigneur, pour que notre amour, Seigneur, continue à grandir envers nos frères et sœurs et envers toi, Seigneur. Que nous ne soyons pas tentés à partir dans le mauvais chemin, tentés à suivre le pas, le conseil des mauvais, mais Seigneur, de rester dans la justice. Seigneur, nous comptons sur toi aussi parce que c'est toi qui le fais, Seigneur, et tu veilles, Seigneur. Tu nous reprends des fois, comme un père reprend ses enfants, et Seigneur, nous te disons merci. Ça ne fait pas toujours du bien, mais Seigneur, après, on a compris, on se relève et on avance. Merci pour ta bonté, Seigneur. Amen.